Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous. Heureuse de vous retrouver. On est en direct jusqu'à 20h55 avec toute l'équipe. Bonsoir à tous les cinq.
Bonsoir.
Est-ce que tout va bien?
Comme
tout
va très bien. Comme ça.
Ah bon? Émilie, votre choix de l'actu du jour.
Jusqu'où ira la crise autour de l'Ukraine? Les États-Unis disent s'attendre à une invasion russe d'un jour à l'autre. Demain, Emmanuel Macron doit s'entretenir avec Vladimir Poutine au téléphone. On posera toutes ces questions à Bernard Guettal, spécialiste de la question.
Voilà, qui se mettra dans la tête du président Macron avec au bout du fil Vladimir Poutine. Mohamed, votre story du jour.
Une histoire avec une belle fin, en tout cas. Des chasseurs d'héritiers qui ont mis 2 ans pour trouver un sans domicile fixe qui devait récupérer 100 000 euros après le décès de son papa. Je vous raconte cette belle histoire ce soir.
L'héritage, il en est question dans votre édito, Patrick.
Oui, le débat sur la fiscalité de l'héritage, mythe et réalité.
Mythe et réalité. Et c'est l'un des débats là, de cette élection présidentielle. La taxe sur la succession, on en parle avec l'économiste Clément d'Herbécourt, membre du Conseil d'analyse économique. Mathieu, dans votre 5 sur 5.
Les lobbies de la viande ont-ils infiltré l'école de vos enfants? C'est Greenpeace qui porte cette accusation. On a enquêté, c'est dans le 5 sur 5.
Et Pierre, votre œil ce soir?
Des films, des musiques de films qui immédiatement nous ramènent les images des films et puis la manière exceptionnelle, admirable de Jeanne Chéral de les interpréter seule au piano devant nos yeux admiratifs et amoureux.
Oh, amoureux de Jeanne Chéral. On aime aussi beaucoup les pièces de Laurent Ruquier. Il vient nous parler de sa toute dernière pièce, Un couple magique, avec sur scène certaines de ses grosses têtes, Stéphane Plaza, Jean-Philippe Janssen et Valérie Mérès. Ils sont nos invités du dîner préparé ce soir par le chef du restaurant Les Mérovingiens à Noisy-le-Grand, en Seine-Saint-Denis. Bonsoir, chef Arnaud Baptiste. Ça s'appelle Les Mérovingiens, votre restaurant, mais ce n'est pas un repas médiéval que vous nous proposez.
Voilà, tout à fait. Bonsoir Babette, tout à fait. Donc en fait, c'est un restaurant qui s'appelle Les Mérovingiens parce qu'il a été construit sous une ancienne sépulture mérovingienne, du coup. Donc on a voulu l'appeler comme ça.
D'accord. Et au menu, des poireaux confits.
Voilà, des poireaux confits. Voilà, des poireaux confits, un peu un poireau vinaigrette, un peu à ma façon. Donc voilà.
À la façon Arnaud Baptiste.
C'est tout à fait ça.
De goûter ça, à tout à l'heure. Merci,
à tout à l'heure,
chef.
Merci.
Tout de suite, l'édito de Patrick Cohen. La question de la fiscalité de l'héritage a fait son entrée dans le débat présidentiel. Les candidats multiplient les propositions de réforme. Valérie Pécresse, notamment, prône un choc des transmissions en supprimant les droits de succession pour 95% des Français.
Et elle a raison, du moins d'un point de vue politique, car c'est l'impôt le plus impopulaire et de loin, bien plus que l'ISF qui frappait aussi le patrimoine. Il est réputé abusif, voire confiscatoire. L'impôt sur la mort, dit Éric Ciotti, qui priverait les enfants des fruits d'une vie de travail de leurs parents.
Et en réalité?
C'est pas tellement vrai. Les 3/4 des successions ne sont pas imposées, souvent parce qu'elles sont en dessous des 100 000 euros d'abattement pour un enfant ou un petit enfant. La réalité des successions en France, la voici. Un héritier sur 2 reçoit moins de 70 000 euros, et pour une partie d'entre eux, c'est zéro. 1 sur 10 touche plus de 500 000 euros. 1 sur 100 reçoit en moyenne 4 200 000 euros net de droits. Et 1 sur 1000, 13 millions d'euros après impôt, encore une fois. C'est-à-dire, 13 millions, c'est 180 fois l'héritage médian de 70 000 euros. C'est un écart considérable, 15 à 20 fois plus élevé que sur les revenus du travail. À ces niveaux-là, le rentier sera toujours plus riche que le salarié ou le patron, même très bien payé, et sans travailler.
Mais la France n'est-elle pas l'un des pays où les droits de succession sont les plus élevés?
Pas pour les plus riches. Les 0,1% qui héritent en moyenne de 13 millions ne sont taxés qu'à 10%. Taux effectif qu'on doit aux nombreuses niches et exonérations, assurance vie, démembrement, pacte Dutreil sur les transmissions d'entreprise, etc. Tandis que les un peu moins riches, juste en dessous, paient davantage, environ 20%. Mais si la France est dans le top 4 des pays qui imposent le plus les successions, c'est vrai, avec la Corée, la Belgique et le Japon, cela tient surtout aux droits en ligne indirects. Si vous héritez de votre oncle ou de votre tante, vous pouvez être imposé jusqu'à 60%. C'est une anomalie. Les successions en ligne indirectes ne pèsent que 10%. 10% du capital transmis, mais 50% des recettes de l'État. En ligne directe, le régime reste plutôt favorable. Aujourd'hui, deux parents peuvent donner sans impôt 200 000 euros par enfant, 100 000 euros pour chaque parent, une fois tous les 15 ans. Mais le résultat, c'est que le poids de l'héritage ne cesse de grossir chez les plus fortunés. Les successions représentent désormais les deux tiers, on le voit ici, du patrimoine total des Français, contre 44% il y a 50 ans. C'est ce qui fait dire au Conseil d'analyse économique qu'on risque d'aller vers une société d'héritiers comme avant la guerre de 14.
C'est un système qui favorise les inégalités de patrimoine.
Qui les perpétue et qui les aggrave de génération en génération à cause, pour une bonne part, de la flambée de l'immobilier. L'INSEE a publié fin novembre une étude passionnante sur la propriété immobilière des ménages qui montre que les deux tiers du parc de logements en France sont détenus par des particuliers qui en possèdent plusieurs, et 7 millions de logements par ceux qui en possèdent plus de 5. On retrouve ces appartements mis en location sur cette carte de Paris que vous allez voir, mais il y a les mêmes choses dans les centres-villes de Lyon, Toulouse ou Marseille. Toutes les zones en jaune ou en vert clair, le triangle d'or autour des Champs-Élysées, le 16e arrondissement, une bonne partie de la rive gauche, tous ces secteurs abritent une majorité, voire une grande majorité, plus de 70%, de logements détenus par des multipropriétaires qui ont très certainement hérité, parfois des immeubles entiers, d'évidence, pas le produit d'une vie de travail.
Bonsoir Clément d'Herbécourt, économiste, co-auteur de la note pour le Conseil d'analyse économique « Repenser l'héritage », une note qui a relancé la question des droits de succession en France. D'abord le constat, la France est réellement en train de redevenir une société d'héritiers, un bond en arrière de plus de 40 ans.
C'est ça, en fait, depuis une quarantaine d'années, on observe que le patrimoine, il augmente beaucoup plus vite que les revenus en France. On avait oublié le patrimoine dans notre société parce que il y avait eu des grands chocs au XXe siècle, il y a eu les guerres mondiales, beaucoup de destruction de patrimoine. Et puis après, on a eu les Trente Glorieuses.
Où on vivait de son travail.
Finalement, il y a eu beaucoup de croissance, on vivait de son travail. Et c'était une société qui n'était pas parfaite, loin s'en faut. Mais finalement, c'était le travail qui allait déterminer un peu la position économique des gens. Ce qu'ils allaient consommer, les biens qu'ils pourraient acheter, l'accès à l'immobilier. Et on est en train de sortir progressivement de ce type de société-là, qui était un peu plus méritocratique finalement, pour revenir dans une société où l'héritage va avoir plus d'impact sur la vie des gens.
Par exemple, pour s'acheter un logement à Paris ou dans une grande ville, il vaut mieux être un héritier qu'avoir un travail qui est bien payé.
Voilà, même un travail qui rapporte, finalement, ça ne suffit plus pour s'acheter un bien immobilier dans Paris ou dans les grandes agglomérations françaises. Et donc, il va y avoir, et c'est déjà documenté par plein d'études, vraiment le risque d'une société à deux vitesses, finalement. Une société où certains vont bénéficier des ressources de leur famille. Alors, ça sera le travail de leurs parents, mais aussi du travail sur plusieurs générations, des biens qui auront été hérités. Alors, Patrick Cohen parlait des biens immobiliers dans Paris. Ça peut être plein de choses, des entreprises, des assurances-vie, etc. Et donc, cette partie de la société va continuer de bien vivre, finalement, parce qu'il y a de plus en plus de patrimoine. Et c'est très bien, d'ailleurs, qu'en France, il y ait plus de patrimoine en général. Ça permet de faire plus de choses. Mais il restera une deuxième partie de la société qui, elle, n'aura que son travail et qui aura beaucoup plus de difficultés à créer des entreprises, à accéder à la propriété immobilière. Et donc, c'est le risque des années qui viennent. Ce n'est pas un problème uniquement pour cette élection ou pour les deux, trois années qui viennent.
C'est la société vers laquelle on se dirige.
C'est une tendance de fond qui va s'imposer dans les prochaines décennies.
Ce qui est incroyable, c'est que, Patrick l'a rappelé, la grande majorité des Français n'héritent de rien ou d'une somme faible, ne payent donc pas de droits de succession. Et pourtant, cet impôt est détesté. Est-ce qu'on comprend pourquoi il est si impopulaire?
Alors, il y a différentes explications. C'est vrai que pratiquement trois quarts des gens ne paieront aucun droit de succession pendant leur vie. Mais pourtant, l'impôt fait peur. D'une part, parce qu'il est très mal connu. Et on entend des chiffres absolument faramineux, totalement faux dans le débat public. Il y a deux, trois chiffres qui circulent. Souvent, on rappelle ce chiffre des 45% d'impôt, qui est le taux maximal. Mais en fait, ce taux-là, il ne concerne personne. Il y a énormément de niches fiscales, donc notamment l'assurance-vie qui est utilisée par les classes moyennes, mais aussi par les très grosses fortunes, mais de manière massive. Il y a le pacte Dutreil, il y a le démembrement de propriété, qui est bien connu des Français, qui consiste à transmettre des biens tout en gardant l'usufruit, l'usage de la maison, par exemple, mais on transmet le bien, et puis ça permet d'avoir des impôts en moins. Et c'est le chiffre que vous citiez tout à l'heure. Quand on prend les 0,1% les plus aisés, On imagine qu'ils seraient taxés à un taux de 45%, mais non, en fait, ils sont taxés à 10%.
45%, il faut rappeler que c'est le taux marginal, voilà. Au-dessus de 1 800 000 euros c'est d'héritage. Ça, on est taxé de 45%, en théorie.
Tous les commentateurs rappellent à l'envi dans le débat public. Or, nous, au CAE, ce qu'on a voulu faire, c'est de donner d'autres chiffres, des chiffres plus, qui sont plus représentatifs, finalement, de la situation même des gros patrimoines. Et donc déjà, il y a un problème. L'impôt est très, très compliqué. On fait miroiter des taux très élevés, mais en fait, les taux effectifs sont très bas. Et d'autre part, il n'y a pas qu'un problème d'impôt. C'est-à-dire qu'il y a un paradoxe, une sorte de dissonance cognitive chez les Français, qui sont très attachés à la méritocratie d'un côté, et qui, en même temps,
pensent
que c'est légitime de transmettre leur patrimoine.
Par exemple, quand on a payé une maison qui vaut un peu plus de 200 000 euros, c'est pas non plus un château.
Voilà, bon, ça sera on un peu taxé que c'est logique, à part ça, mais les Français ne veulent pas du tout que ça soit taxé.
Il y a l'idée
Ce qu'on dit dans la note, c'est qu'on ne peut pas avoir à la fois la méritocratie et l'héritage. Et donc, il faut travailler dans le débat public pour que les Français s'approprient plus ces questions et qu'on résolve cette espèce de paradoxe, quoi. Si on est attaché à la méritocratie, a priori, il va falloir plutôt investir dans des politiques d'égalité des chances, essayer de limiter les inégalités d'héritage.
Et donc taxer plus l'héritage des plus riches.
Les droits de succession font partie des outils dont on a à disposition.
Il y a l'idée assez ancrée dans une partie de l'opinion que le fisc peut vous obliger à vendre un bien de famille pour payer les droits de succession, vous ne pouvez pas garder la maison de vos parents ou de vos grands-parents ou de vos ancêtres.
On entend parfois même des gens dire « on nous prend tout », c'est-à-dire « on reçoit un bien et on nous prend tout 100%. » Alors, en ligne indirecte, ça peut être vrai dans certains
jusqu'à
cas.
Jusqu'à 60%.
Ça, c'est 60%, mais ça arrive très vite, les 60%. C'est-à-dire que vous avez un tout petit abattement et puis tout de suite, vous payez 60 ou 45, 50%. Là, on est obligé de vendre, dans certains cas. Mais
en ligne
pour
direct,
les enfants, en fait, personne n'est obligé de vendre son bien de famille à moins que le bien vaille des centaines et des centaines de milliers d'euros. Donc il y a quand même un paradoxe, une contradiction, et on essaye, il faut absolument qu'on travaille sur cette question parce que c'est un sujet qui va revenir de toute façon.
Un sujet qui va revenir parce que la société évolue et que ça devient presque pénalisant pour la société et sa dynamique, mais le sujet ne date pas d'hier. Il y a 43 ans, le magazine de TF1, L'Événement, il consacrait déjà un reportage, et quand on écoute ce notaire de Cannes, on se demande ce qui a vraiment changé.
L'inégalité entre les Français vient en grande partie de l'héritage. Mais pour les plus riches comme pour les plus pauvres, l'héritage a un caractère sacré. Dès que l'on y touche, c'est l'inquiétude.
Dès qu'on parle aux Français du problème des droits de succession, la réaction de tous est la suivante. Comment j'ai travaillé toute ma vie pour mes enfants, pour ma femme, puisque c'est toujours le mari qui meurt le premier, tout le monde le sait, et je ne pourrai rien leur laisser, car l'État va me prélever la plus importante partie de mon patrimoine. Alors, dès qu'on évoque une révision des droits de mutation par décès, on rencontre l'hostilité générale.
Et là, on arrive à un moment où on va pouvoir révolutionner.
Alors, c'est en 79, c'est juste à la fin des Trente Glorieuses. C'était vraiment une époque où l'héritage avait en plus moins d'importance qu'aujourd'hui.
Ouais.
Mais c'est vrai que le débat public n'a pas progressé en 40 ans. On entend toujours les mêmes arguments, toujours les mêmes idées qui circulent.
Idées reçues et...
Là, c'est-à-dire qu'on nous prend la majeure partie du patrimoine. Le problème aussi, c'est qu'on a très peu de données. C'est-à-dire que l'État s'est dessaisi de ces questions. On a arrêté de documenter ces questions-là. Et donc, il y a des chiffres très, très farfelus qui circulent.
L'idée qui est souvent exprimée à droite, qu'il faut donner aussi un coup de pouce aux jeunes, que l'héritage permet d'entrer plus facilement dans la vie active. L'âge moyen de l'héritier n'a cessé d'augmenter. C'est 50 ans.
Oui, il y a un vieillissement.
On hérite de plus en plus tard.
Voilà, l'espérance de vie augmente, donc on va recevoir un héritage de plus en plus tard.
Donc c'est plus un complément de retraite.
Alors,
que
dans certaines familles favorisées, on peut faire des donations à ses enfants. C'est pas le cas quand on a juste sa résidence principale ou quelques dizaines de milliers d'euros. C'est plus compliqué. On a besoin de garder de l'argent pour ses vieux jours aussi. Et donc ce qu'on dit dans la note, c'est que on n'est pas forcément favorable à inciter aux donations parce que c'est pas à l'État de vous dire à quel moment il faut donner à ses enfants. Mmh. C'est dans les familles que ça se discute. les parents savent à quel moment il faut aider tel enfant qui a un problème. Oui.
Les délais ont été rallongés d'ailleurs, sous Sarkozy et sous Hollande.
Oui, alors maintenant, c'est 15 ans. L'État met un délai de rappel de 15 ans, donc maintenant on peut donner tous les 15 ans. Mais finalement, il n'y a pas tellement de justification économique à inciter les gens à donner juste avant les 15 ans pour bénéficier d'une baisse d'impôt. Nous, ce qu'on dit, c'est que c'est aux familles l'État n'est pas plus informé que les familles sur le timing des donations. Alors après, il y a la question des inégalités, c'est-à-dire que c'est uniquement les grosses fortunes qui peuvent donner et qui peuvent donner plusieurs fois dans la vie. Et donc, on propose dans la note de repenser la fiscalité des héritages pour qu'on ne taxe pas à chaque fois que des sommes sont transmises, mais que chacun ait un compte d'héritage.
Et qu'on paye au fur et à
qu'on,
mesure.
Voilà, qu'on compte ce que les gens reçoivent tout au long de leur vie. Et puis on décide que, à 500 000 euros, on commence à taxer ou à 1 million. Et qu'on prenne en compte tous les héritages. Aujourd'hui, le système est absolument...
Il faudrait le simplifier, quoi.
Complexe. Et voilà, il y a...
Complexe.
On paye...
Alors, question complexe, mais réponse simple, comme souvent. Dans le débat politique, Anne-Elisabeth parlait d'une foire aux idées pour réformer la fiscalité sur l'héritage. On va en voir un florilège.
Ce que je souhaite, c'est qu'on puisse mettre en place des droits de donation exonérés d'impôts qui soient égaux entre les grands-parents et les petits-enfants qu'entre les parents et les enfants, et ce, à hauteur de 100 000 euros tous les 10 ans.
Je veux que 95% des Français ne payent plus de droits de succession.
Jusqu'à 300 000 euros,
dans
exonération totale.
Dans le barème des plus de 2 millions, on va jusqu'à 60% de taxation sur ces héritages.
Je propose de toucher au 0,01% des gens qui touchent plus de 12 millions. Au-delà de 12 millions, je prends tout.
Alors, on voit bien la... On ne va pas rentrer dans le détail des propositions, mais on voit bien la philosophie à droite et à l'extrême droite.
On
défend un allègement de la fiscalité. À gauche, il y a l'idée d'une refonte des barèmes, voire d'une confiscation au-dessus de 12 millions comme pour Mélenchon. Il y a des idées plus réalistes que d'autres dans ce que vous entendez?
Après, il y a le débat politique. Oui, chacun a ses sensibilités. On peut débattre des abattements, des taux. Nous, on ne propose pas de solutions clés en main. Mais ce qui est impressionnant, c'est de voir que la plupart des débats se focalisent sur les classes moyennes. Donc, est-ce qu'il faut fixer un abattement à 100 000 ou à 200 000 ? Est-ce qu'il faut exonérer les classes moyennes supérieures ? Oui, les présidents précédents ont ajusté cet abattement. Sarkozy l'avait augmenté, Hollande l'a baissé, certains proposent de le remonter. Nous, on dit qu'on ne peut plus juste jouer sur cet abattement en ligne directe, d'augmenter un petit peu, faire rentrer les classes moyennes, les faire sortir. Il faut sortir de ce genre de réflexion. Et il faut une réforme plus systémique.
Oh là.
Et on ne parle pas des taux...
On a parlé de réforme systémique, ça s'est planté.
Oui, mais on ne parle pas des taux d'imposition. Mais sur cet enjeu-là, la réforme systémique, elle est nécessaire parce que le système est devenu totalement illisible. Et donc, même avant de parler des taux, des barèmes, de dire à partir de 10 millions, 1 million, il faut, je pense, revoir l'architecture globale du système.
Certains pensent que vu la complexité justement du sujet, ça pourrait prendre entre 10 et 18 ans à réformer le...
Ah oui, de toute façon, on ne peut pas réformer du jour au lendemain, c'est impossible.
Mais c'est dingue, une réforme,
l'héritage, ça prend 18 ans. C'est sur le temps long. Ouais. Mais on ne peut pas imposer une réforme comme ça, brutale, et tout de suite. Il faut de toute façon qu'il y ait un consensus qui soit plus large. Donc il faut éclairer les Français sur ces questions et proposer une réforme qui va s'étaler dans le temps pour que les gens puissent anticiper les choses, éventuellement préparer des successions, préparer des donations, et que ça se fasse de manière sereine.
Vous restez avec nous, on va continuer à parler d'héritage avec la story de Mohamed Bouabsi. Mohamed, une histoire d'héritage, donc, comme je le disais.
Une histoire de succession, pas comme les autres en tout cas. Un notaire basé en Mayenne va voir le cabinet Audibert, la durée spécialisée dans la recherche généalogique, successorale et familiale. Le notaire a un souci, un de ses clients vient de décéder et personne n'est venu réclamer la succession. L'homme a 3 enfants, les 2 filles sont retrouvées facilement. En revanche, le fils a disparu. La seule information que le cabinet dispose... L'homme est en rupture familiale et serait un sans domicile fixe basé à Rennes.
Chaque dossier, je dirais, est une histoire et une aventure différente. La dernière, je dirais, qui est marquante pour moi, c'est le cas. Donc, on réglait la succession d'un monsieur. Il fallait qu'on vérifie s'il avait des enfants.
Ouais.
Et on lui a retrouvé effectivement un fils qui était complètement marginalisé à SDF dans la région rennaise, dans la région de Rennes, en Bretagne. Et il s'avère qu'effectivement, on a pu remettre un chèque de 100 000 euros à ce monsieur.
Wow.
Et qu'il a pu redémarrer sa vie.
Bravo.
Sur de bonnes bases.
Bah, c'est une belle histoire, ça. Ouais. C'est génial, quand même. Vous avez été son ange gardien. Son porte-bonheur, on va dire.
Avant la belle histoire, on parle quand même d'une vraie enquête policière pour retrouver ce sans-abri. Les généalogistes ont dû parcourir plusieurs dizaines de milliers de kilomètres en Bretagne. Ils ont multiplié les rendez-vous avec les mairies, les organismes sociaux, les centres d'action sociale. Ils ont fait une enquête de terrain. À Rennes, ils ont finalement trouvé une piste. Ils ont arpenté les rues plusieurs jours et échangé avec plusieurs sans domicile fixe pour trouver la bonne personne. Au bout de 10 mois d'enquête, il trouve une adresse temporaire de l'homme. Il lui laisse une carte de visite et une lettre expliquant que son papa est décédé. Le quadragénaire rappelle, le contact est pris. À l'annonce de la mort de son papa, il est effondré, il le découvre. Mais ce n'est pas fini. Régler les démarches de la succession ont pris plusieurs années. L'homme a hérité finalement d'une somme de 100 000 euros, produit de la vente de la maison familiale. Quand les deux généalogistes ont annoncé le montant de la succession, le sans-abri a demandé une seule chose, des nouvelles de sa famille et des photos. Plus personne n'a de nouvelles de ce SDF depuis. Cette histoire est partagée par des milliers de personnes. En France, les chasseurs d'héritiers partent souvent du même point de départ.
Tout commence par l'appel à l'aide d'un notaire lorsqu'il ne retrouve pas les héritiers d'une succession. S'en suivent des semaines de recherche dans différents services d'archives et sur des bases de données informatiques. Pour retrouver les héritiers, Damien doit tracer l'arbre généalogique de la famille sur cette longue partition.
C'est un support qui sert aussi au chef d'orchestre, parce que lui a toutes les portées de musique, et bien nous on va mettre toutes les générations, et petit à petit on va échafauder notre tableau, on va le faire progresser jusqu'à arriver au fruit de l'arbre que sont les héritiers connus.
Pour chaque dossier traité, le cabinet récupère 10 à 40% de la somme perçue par l'héritier après impôt.
Des généalogistes successoraux qui sont capables de remonter 400 ans dans l'héritage d'une famille, ou en tout cas dans l'arbre généalogique. Clément d'Herbécourt, ces situations de succession, on appelle ça des successions en déshérence, et ça risque de se représenter beaucoup plus dans le futur, de plus en plus.
Ah oui.
Bon, fatalement, puisque de toute façon, le patrimoine augmente au cours du temps, et puis on a des familles qui sont plus complexes, des familles recomposées. Cette question-là, elle se pose. Après, c'est un petit peu anecdotique pour l'État, hein, pour le débat
c'est une
public.
Pour
le,
financière.
C'est une petite manne, même pas, parce qu'en fait, l'État va attendre 30 ans, finalement, avant de récupérer les successions en déshérence. Mais ça peut arriver, et ça montre que, finalement, sur les questions de succession, il y a plein d'autres enjeux que des questions purement fiscales. Il y a aussi les questions des relations entre héritiers, les questions de comment les successions se passent, comment on retrouve les héritiers. Finalement, c'est un enjeu très, très large, avec plein de dimensions.
Merci, Mohamed. À tout à l'heure pour la Story Média. Émilie, les signes de tension à la frontière ukrainienne se multiplient.
Oui, hier, on a assisté à une grosse livraison d'armes sur le tarmac de l'aéroport de Kiev, des équipements militaires, des munitions pour l'armée ukrainienne qui proviennent des États-Unis. 8500 soldats américains sont en alerte, prêts à partir au combat. Et les militaires ukrainiens, eux, continuent de s'entraîner, vous allez le voir, à leur manière. Cerise sur le gâteau, Washington a ordonné dimanche dernier aux familles des diplomates américains qui sont en poste à Kiev de quitter l'Ukraine en raison de la menace persistante d'une opération militaire russe. Le pays dit s'attendre à une attaque imminente.
La balle est dans son camp. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui ce qu'il va faire, mais nous nous préparons à prendre des mesures décisives s'il agit de manière agressive envers l'Ukraine.
Sauf que pour la Russie, ce sont les États-Unis qui ont commencé et les ont incités à gonfler les muscles. 100 000 hommes déployés le long des frontières ukrainiennes, sans compter les chars, les blindés, les bateaux. Un rien semble empêcher le retour d'une guerre. Ce rien, pour l'instant, c'est la diplomatie que les Européens, Emmanuel Macron en tête, puisqu'il vient de prendre la présidence de l'Union européenne, sont bien prêts à utiliser.
Ensemble à gérer. Évidemment, les tensions qui aujourd'hui sont croissantes à la frontière ukrainienne et plus largement la question de la relation avec la Russie. Et nous appelons l'un et l'autre avec beaucoup de force à une désescalade des tensions. Il ne faut jamais abandonner ces formats de discussion et d'échange.
Demain, Emmanuel Macron doit s'entretenir avec Vladimir Poutine par téléphone.
Bonsoir Bernard Guetta.
Bonsoir.
Député européen du groupe Renew au Parlement européen et journaliste spécialiste en géopolitique. Est-ce qu'on doit vraiment craindre une guerre aux portes de l'Europe ?
Ça dépend de M. Poutine. Vraiment, ça dépend de M. Poutine et de lui seul. Parce qu'il décide d'entrer en Ukraine, une partie du territoire ukrainien ou la totalité du territoire ukrainien. Et ce n'est pas la guerre en ce sens que ni les Européens ni les Américains n'enverront de soldats. Mais c'est une telle avalanche de sanctions économiques dures, véritablement dures, ce qui se prépare est véritablement dur, qu'on entre dans une situation de tension internationale extrêmement grave, extrêmement sérieuse, que Poutine à ce moment-là voudra réagir, etc. Mais il y a une autre hypothèse, vous l'évoquiez à l'instant. Après tout, hier, les Russes, les Ukrainiens, les Français, les Allemands sont retrouvés à Paris. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? On se retrouve dans 15 jours à Bruxelles. À Berlin, excusez-moi. Monsieur le chancelier allemand est attendu le 7 de la semaine prochaine à Washington. Il y a des discussions, des rendez-vous qui sont pris partout. On n'a pas l'impression que, véritablement, la guerre soit pour demain. Et puis, je vous rappelle une dernière chose. Monsieur Poutine a commencé cette concentration de troupes à la frontière ukrainienne mi-novembre et sans doute même avant. Alors, écoutez, si vraiment il voulait y aller, il y serait allé un peu plus vite. Mais
c'est de l'intimidation, quoi. C'est un rapport de force.
Je ne peux pas vous répondre.
Comme il les aime.
Je ne peux pas vous répondre. Et personne ne peut, vraiment.
Personne ne peut se mettre dans la tête de Poutine.
Personne ne peut se mettre dans
C'est-à-dire
la tête de Poutine.
C'est-à-dire que tout est possible.
Tout est possible. Si vous voulez une interprétation, mais elle est libre, je sais que Patrick va la contester, mais je la donne quand même. Moi, je crois que Poutine devient totalement irrationnel, que Poutine est un homme en état de panique parce qu'il perd les commandes aujourd'hui, aussi bien dans son pays que dans les pays qui entourent la Russie, les anciennes républiques soviétiques. Et donc, malheureusement, on peut s'attendre à tout.
C'est-à-dire à quoi ? Une prise de contrôle pure et simple de l'Ukraine ou alors des frappes ciblées contre des sites militaires ? Quand on parle d'une attaque imminente selon les États-Unis, ça pourrait ressembler à quoi ?
Écoutez, je vous donne trois scénarios possibles. Il reconnaît diplomatiquement l'indépendance des deux régions qui sont en trouble aujourd'hui en Ukraine orientale. C'est-à-dire que sans envoyer de nouvelles troupes, de fait, il annexe ces régions. Ah, c'est compliqué. Il marche carrément sur Kiev. Et après tout, quand on regarde la carte des concentrations de troupes, quand on voit qu'il a envoyé des barges sur le Dniepr, c'est-à-dire le fleuve qui partage l'Ukraine et qui mène directement à Kiev, on ne peut pas exclure cette hypothèse. Ou bien il se contente, si j'ose dire, excusez-moi de ce mot, mais enfin oui, il se contente dans sa tête, de saisir les territoires entre la Crimée qu'il a annexé, et l'Ukraine orientale qu'il occupe de facto. Et il crée, à ce moment-là, une zone tampon à la frontière orientale de l'Ukraine qui, de fait, devient une zone russe.
Quand vous dites que Poutine perd les pédales et qu'on ne sait pas ce qu'il va faire, etc., il a quand même publiquement, Moscou a donné publiquement, qu'elle a dit quels étaient ses objectifs. C'est-à-dire
que
l'OTAN reste à distance des frontières russes, qu'il y ait un engagement des Occidentaux à ce que l'Ukraine n'adhère pas à l'OTAN, qu'il y ait un nouveau système de sécurité en Europe. Est-ce que ça, il peut l'obtenir des Occidentaux avec toutes ces gesticulations militaires et diplomatiques ?
Alors la réponse est catégoriquement non. Jamais l'Alliance Atlantique ne dira nous excluons a priori de l'adhésion de tel ou tel pays. L'Alliance Atlantique ne peut pas le faire. L'Ukraine peut dire je m'engage moi ou je renonce à adhérer à l'Alliance Atlantique. L'Alliance Atlantique ne peut pas dire je renonce à cette adhésion. Et d'autre part, quand M. Poutine pose des conditions dont il ne peut pas ignorer qu'elles sont inacceptables pour les Occidentaux, mais pas seulement pour les Américains, pour les Européens aussi, pour l'ensemble de l'Alliance Atlantique, on se dit a priori, donc c'est qu'il veut la guerre. Il attend le Niet et il y va. Or, le Niet, il l'a depuis 3 semaines. Vous l'avez vu bouger ? Moi, pas.
Demain, Emmanuel Macron l'aura au téléphone.
Oui.
Alors, qu'est-ce qu'il doit dire à Vladimir Poutine lorsqu'il lui parlera ?
Avec un objectif de désescalade, a dit l'Élysée.
Moi, je pense qu'il devrait dire deux choses en même temps. Il devrait lui dire, écoute, Vladimir, parce qu'il se tutoie, tous ces chefs d'État se tutoient, quelle que soit leur relation. Il devrait lui dire, écoute, vraiment, ce qu'on a préparé comme sanction, si tu entres en Ukraine, c'est vraiment très sérieux, tu ferais bien d'y réfléchir. Et tu ferais d'autant mieux d'y réfléchir qu'après tout, la situation dans laquelle on est pourrait être le préambule à une grande négociation sur l'équilibre, la stabilité sur le continent Europe, la coopération éventuelle dans un deuxième temps entre l'Union européenne et la Fédération de Russie. Bah, saisis cette chance plutôt qu'en bon français que de déconner.
Ce matin, sur France Info, le porte-parole du candidat Zemmour affirmait qu'Emmanuel Macron devrait, plutôt que de décrocher son téléphone, se rendre carrément à Moscou pour discuter à Vladimir Poutine, histoire de, voilà, d'être respectueux à l'égard d'une Russie qui se sent mise à l'écart.
Je pense qu'Emmanuel Macron eût été bien avisé, au-delà des différents envois de diplomates ou au-delà du coup de téléphone annoncé demain entre lui et le président russe, de se rendre lui-même, par exemple, à Moscou. Vous voyez, l'épreuve de respect. La Russie se sent mise à l'écart, humiliée par une alliance incarnée par l'OTAN entre certains pays européens et les Américains. Il faut sortir de cette logique de bloc. La France a toujours privilégié, à juste titre, c'était ce que disait le général de Gaulle, la diplomatie à la guerre. C'est ça la vocation universelle de la France.
Vous imaginez le général de Gaulle faire le voyage jusqu'à Moscou ?
Ah ben non, alors là, véritablement pas du tout. Surtout après que l'Union soviétique, à l'époque, eh ben c'est 100 000 personnes à la frontière. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que, certes, l'Ukraine est la frontière occidentale de la Fédération de Russie, mais l'Ukraine est aussi la frontière orientale de l'Union européenne. Et dans ce sens, si M. Poutine a des préoccupations de sécurité, je veux bien, examinons-les. Il faut les examiner s'il en a, mais il devrait se souvenir que nous avons des préoccupations de sécurité parce que nous n'avons annexé aucune partie du territoire russe. Il a annexé la Crimée. Nous n'occupons militairement aucune partie du territoire russe. Il occupe l'Ukraine orientale. Nous ne massons pas 100 000 soldats à la frontière ukrainienne, parce que je sache, ces soldats sont russes et pas occidentaux.
Alors, mardi, Joe Biden s'est montré assez menaçant en annonçant de possibles sanctions personnelles très lourdes contre Vladimir Poutine.
Personnellement.
Ouais, personnellement, on a le document. Alors, attention Bernard, c'est pas une déclaration de guerre. Imaginez que vous vous promenez dans un magasin de prêt-à-porter, on vous interroge sur Poutine, vous répondez brièvement, très brièvement, vous allez voir, mais c'est quand même une parole de président.
Le ton est ferme. Joe Biden n'hésite pas à menacer directement Vladimir Poutine. Vous verriez-vous un jour le sanctionner personnellement s'il envahissait l'Ukraine ?
Oui.
Le feriez-vous ?
Je verrai ça.
Alors, c'est quand même ahurissant de questionner un président.
Il y a un côté un peu anecdotique, sauf qu'il a répondu oui par deux fois, et vous dites vous-même, Bernard, qu'il y a des sanctions
dire, les sanctions contre Poutine, personnellement, pas seulement contre son entourage direct, personnellement, c'est une idée qu'on évoque en commission des affaires étrangères du Parlement européen depuis un an et demi, c'est-à-dire depuis le début de l'affaire Bélarus. Je peux vous dire même que c'est moi qui ai mis cette idée sur la table en commission des affaires étrangères. Non, pas que reprendre Joe Biden, c'était un autre contexte.
Alors,
c'était l'affaire Bélarus. Mais tout simplement, écoutez, nous payons, nous les contribuables, assez cher, le fonctionnement d'excellents services secrets. Je ne doute pas que les services secrets des pays européens, américains, etc., aient quelques renseignements sur l'état de la fortune personnelle de M. Poutine dans des, des paradis fiscaux.
Il s'agirait de la divulguer ou de la confisquer ?
Écoutez, pourquoi pas ?
Ah, de la divulguer.
Écoutez, pourquoi pas ? Cet homme qui est honnête, qui est... etc. Mais, enfin, écoutez...
Ça aurait un impact sur l'opinion russe, ça.
Ah ça, je crois bien, oui.
Parce que Navalny l'avait déjà fait, il avait révélé...
La construction d'un palais absolument invraisemblable, horrible d'ailleurs, mais enfin bon, d'un palais gigantesque de très très mauvais goût, vraiment de très mauvais goût. Mais enfin, gigantesque et qui coûtait très cher. Mais si M. Poutine continue à s'amuser comme ça, peut-être qu'il faut lui répondre œil pour œil, dent pour dent.
Mais ça fait presque plus peur peut-être à Poutine que les sanctions économiques qu'Emmanuel Macron ou l'Europe lui promet quand lui, il peut nous enlever le gaz, le chauffage, là, en plein hiver.
Alors écoutez, d'abord oui, ça lui ferait très peur, ça je le pense aussi, mais deuxièmement, quand on dit qu'il peut nous enlever le chauffage en hiver, etc., c'est absolument vrai. Mais il ne faut pas oublier que quand il coupe les robinets, il coupe aussi les rentrées de devises dans son pays. Et les rentrées de devises qui viennent compenser ou acheter l'énergie, le gaz et le pétrole, c'est pratiquement la seule ressource à l'exportation de la Russie. Et si M. Poutine demain coupait les robinets, alors premièrement, il romprait des contrats et ça se retrouve devant les tribunaux et les commissions d'arbitrage internationales, mais surtout, à ce moment-là, les pays européens vont se tourner vers d'autres fournisseurs, peut-être plus cher, mais plus fiable. Et ça signifie tout simplement que la Russie perdrait, et peut-être à moyen et long terme, et pas seulement dans l'instant, les marchés européens. Alors Gazprom, la grande compagnie d'exportation russe, qui est en fait... j'allais dire une horreur. Bon, je me tais. Bon, enfin, on sait bien qui la possède, Gazprom. Bon, eh bien, Gazprom ferait bien de réfléchir, et peut-être qu'un de ses actionnaires qui est haut placé au Kremlin ferait bien de réfléchir aussi.
Merci Bernard Guetta, vous restez avec nous.
Avec plaisir.
Avec nous, on continue à évoquer l'actualité. C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard.
Bonsoir à toutes et à tous.
Mathieu, les cantines et restaurants vont devoir préciser l'origine de toutes les viandes.
Oui, à compter du 1er mars prochain, le porc, la volaille et l'agneau rejoignent le bœuf. On dirait une fable, pour lequel c'était déjà le cas depuis 20 ans suite à la crise de la vache folle. La mesure concerne toutes les formes de restauration hors domicile. Vous saurez d'où vient le contenu de votre assiette. Le ministre de l'Agriculture précise que la moitié des viandes consommées dans les cantines est importée. En signant ce décret, il assume une part de chauvinisme. Il veut nous inciter à manger de la viande produite en France. L'association Greenpeace a salué cette incitation à l'approvisionnement local. Un bon point donc pour le ministère de l'Agriculture. Mais il faut dire que cette semaine, Greenpeace visait surtout le ministère de l'Éducation nationale, accusant les industriels de la viande d'avoir infiltré les écoles. Ce site que vous voyez à l'écran, Mon Assiette, Ma Planète, propose des kits pédagogiques aux enseignants. Il propose l'organisation de sorties dans des fermes avec de jolies photos de nature. Alors que c'est un site du lobby de la viande, Interbev, accusation grave. Et les enseignants ne sont pas les seuls visés par ces kits pédagogiques.
Ce qui nous a choqué dans notre enquête, c'est qu'on a découvert qu'il y avait des kits pédagogiques spécialement pour les infirmiers, les infirmières et médecins scolaires. Par exemple, ici, ils ont déployé des bandes dessinées où ils expliquent à deux jeunes filles qui sont ensemble, où l'une dit « mais la viande, on peut s'en passer ». Et l'autre, elle lui dit « tu peux t'en passer, mais du coup, tu n'es pas à l'abri des sacrés coups de fatigue ». Interbev, là où ils sont très fins, c'est qu'ils ne mentent jamais. Mais de par leur message, ils sont tout le temps en train de souligner l'importance des viandes. Et ça, c'est très problématique parce que l'école ne doit pas être un lieu d'influence des enfants ou de futurs consommateurs. Ce n'est pas du tout l'objet de l'enseignement public.
Est-ce que l'éducation nationale a une responsabilité et est-ce que vous diriez que, d'une certaine manière, elle est elle aussi sous l'influence de ces lobbies?
Moi, je pense que l'éducation nationale a un rôle à jouer. Ce qu'on demande, c'est au gouvernement de donner des moyens financiers, des moyens pédagogiques aux enseignants pour faire bien leur travail et qu'ils n'aient pas recours à ce type d'outils.
Alors concrètement, on va regarder dans le détail. Vos enfants sont peut-être rentrés à la maison avec ce petit kit du flexitarien. Alors vous voyez bien en bas à gauche le logo assumé des représentants de la viande, Interbev. À l'intérieur, des recettes pour que les enfants cuisinent, fleurs de pizza avec du bœuf, cordon vert, très vert, vous voyez sur l'écran, avec du veau sous les petits pois. Ça n'a pas forcément l'air mauvais, mais il n'y a pas une seule recette sans viande. Pour terminer par une phrase, en gros et en gras, aimez la viande, mangez-en mieux, c'est toujours signé Interbev. Louis Amar et Anaïs Recouli ont rencontré une maman qui a peu apprécié de voir son fils de 7 ans rentrer avec ce petit fascicule.
J'avais du mal à y croire, donc j'étais vraiment surprise de voir ce type de document. Enfin, je trouvais que ça n'avait pas sa place dans les affaires scolaires de mon fils. J'ai tout de suite compris qu'en fait, les élèves étaient vus par Interbev comme les futurs consommateurs, que dès leur plus jeune âge, ils sont pris pour cible. Ce lobby intervient auprès des écoles pour proposer des sorties, tout compris choix d'une ferme, autocar payé intégralement pour permettre aux écoles de ne pas faire de dépenses supplémentaires. L'école n'est pas un lieu où on forme des consommateurs, des acheteurs, on forme des citoyens.
Alors, on a évidemment appelé Interbev qui nous a répondu par mail. Ils se disent légitimes pour parler de sujets relatifs à l'élevage, l'alimentation durable et l'environnement. Quel que soit le public visé, ils reconnaissent promouvoir le modèle d'élevage français. Mais plus largement, des lobbies au sein du cadre scolaire, Camille Schmitt et Michael Robert ont posé la question à quelques parents d'élèves.
On ne doit pas passer les barrières d'un établissement public, a fortiori un milieu de l'éducation sur des mineurs.
Moi, je suis plutôt choqué dans l'ensemble par les lobbies anti-viande, les lobbies bio, les lobbies vegan, que par les lobbies de la viande dont on n'a pas entendu parler.
C'est l'école de la République, c'est une école laïque et ni la politique, ni le lobbying, ni la religion doit y rentrer après la porte. Voilà.
Alors ce n'est pas une pratique si rare ni nouvelle, des kits pédagogiques, là on parlait de la viande, mais il y en a distribués par des entreprises ou des lobbies, il y en a d'autres, écoutez.
C'est très fréquent que des marques, des lobbies diffusent auprès des enseignants des livrets pédagogiques, des guides pédagogiques pour faire passer une idée aux élèves et puis bien évidemment une marque qui est plus particulièrement citée. Total fait beaucoup de guides pédagogiques, mais on a aussi des marques industrielles, de grandes surfaces qui essayent d'être présents dans les écoles parce qu'ils tentent de nous envoyer des guides pédagogiques que l'on peut distribuer ensuite aux enfants ou qu'on peut utiliser comme support dans les apprentissages. Donc il faut être très vigilant.
L'éducation nationale a répondu aussi à Louis Amar. On nous dit que les interventions en milieu scolaire sont pilotées par l'inspection et ou le chef d'établissement, en fait, selon les âges, et qu'aucun régime en particulier n'est valorisé.
Emmanuel Macron n'est toujours pas officiellement candidat, mais il semble qu'il est déjà un site de campagne.
Oui, un site mis en ligne la nuit dernière, avecvous2022.fr. Vous connaissez ?
Ah, pas du tout.
Non, je vais vous le présenter. Alors, on y lit d'entrée, découvrez la voix des Français et faites entendre la vôtre. On y écoute des témoignages de Français, des descriptions de métiers. On peut s'inscrire, recevoir des infos sur la présidentielle. Un peu plus bas, cette phrase, vous ne vous reconnaissez pas dans les déclarations des candidats, c'est normal. Ils ne parlent pas de vous, mais d'eux. Notre démarche est l'opposé de ça. Mais on ne sait pas vraiment qui écrit. Il faut creuser un tout petit peu et aller vers les mentions légales du site pour en trouver les auteurs. L'association La République En Marche. Ah. Le directeur de publication, c'est le patron des Marshall, le député Stanislas Guérini. On trouve aussi un co-directeur de publication, Christian Bonbrun. Dans sa bio Twitter, on lit qu'il est responsable com et numérique campagne majorité présidentielle. Donc vous ne savez rien de ce site, Bernard. C'est
non, on ne m'a pas prévenu,
campagne.
Je suis très vexé.
C'est une forme d'annonce. Vous connaissez tous ces gens
Les deux premiers.
Un énième scandale au Royaume-Uni, Boris Johnson accusé d'avoir multiplié les fêtes à Downing Street quand la population était confinée. Oui, on n'en finit pas.
Mais alors pour vous répondre, Patrick, parfois on se retient même d'en parler.
Parce qu'on se dit, on en a parlé hier, on ne va pas recommencer aujourd'hui.
Partygate, c'est ainsi qu'on appelle désormais cette série de révélations sur le comportement des membres du gouvernement. On vous a raconté plusieurs fêtes, plusieurs révélations. Dernièrement, l'anniversaire de Boris Johnson, le 19 juin 2020, lors duquel une fête aurait été organisée par son épouse. On parle d'une trentaine de convives, de gâteau partagé. Je n'entre plus dans les détails en fait, de ces fêtes clandestines d'Downing Street. On a beaucoup parlé, on en aurait pour la soirée. Mais clairement, Boris Johnson peut craindre pour son poste.
Since he acknowledges the ministerial code applies to him, will he now resign?
Yes. Yes.
No, Mr. Speaker. About COVID restrictions, he has been relentlessly opportunistic throughout.
Can the Prime Minister confirm that he will publish the full Sue Gray report as he receives it?
When I receive it, I will do exactly what I said, but I can tell him that in the meantime, I think what the people of this country want to hear is what we're doing to tackle the issues that matter to all of us. Fixing the cost of living, Mr. Speaker, helping people across the country.
Et dans cette tempête, un nouveau visage, une haute fonctionnaire chargée de l'enquête sur le Partygate.
The publication of the Sue Gray report.
Boris Johnson's already been questioned by Sue Gray.
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 Sue Gray is now the centre of attention.
Sue Gray, 63 ans, c'est elle qui fait trembler les ministres aujourd'hui. Selon la BBC, Sue Gray est la personne la plus puissante dont vous n'avez jamais entendu parler. Ses enquêtes passées sur des conflits d'intérêts, sur des vidéos porno dans des ordinateurs de fonction, une longue liste en réalité qui lui vaut d'avoir déjà fait tomber plusieurs ministres et secrétaires d'État dans plusieurs gouvernements. Sue Gray, donc, apprenait à la connaître dans ce scandale du Partygate. Elle est devenue la coqueluche des réseaux sociaux outre-Manche. Elle a même eu droit à une chanson d'encouragement.
We'll have to wait for Sue Gray's inquiry. We'll have to wait for all of the facts. She's the only should follow in her track. We'll have to wait for Sue Gray's inquiry. We'll have to wait for all of the facts. She's the only one who's immune to fear or favour. May the good Lord save her.
Save Sue Gray.
Sue Gray, qui a les encouragements du peuple britannique, ça va pas très fort pour Boris Johnson.
Mais cette dame est vraiment l'incarnation de la vertu et de l'honnêteté. Véritablement, dans toutes les affaires dont elle a eu à traiter, elle a été d'une équité absolument remarquable. Elle est vraiment... C'est quelqu'un que personne n'oserait contester parce que elle n'est pas contestable jusqu'à présent, alors que Boris Johnson, bah vous le disiez à l'instant, bah oui, sa position s'affaiblit régulièrement. Est-ce que ça veut dire qu'il va tomber ? Peut-être pas, parce que cet homme ne connaît pas la honte. Il ne connaît pas la honte, donc il peut résister à beaucoup de choses, d'autant que beaucoup des députés de son parti ont peur que ça puisse mener sa démission à des élections anticipées. Ça ne serait pas certain, d'ailleurs. Mais ils ont cette crainte. Et s'il y avait des élections anticipées, ils risqueraient beaucoup de perdre leur poste.
Il faut une cinquantaine de députés conservateurs, 50 et quelques, pour faire basculer la majorité et faire tomber Johnson. Bien sûr. Pour l'instant, on en est assez loin. Je crois qu'il y a une vingtaine de contestataires.
Autre polémique autour du président de la FIFA, cette fois.
Oui, la plus grande instance du foot mondial, la FIFA. Gianni Infantino s'exprimait hier devant le Conseil de l'Europe à Strasbourg. Il a défendu un projet qui lui tient à cœur et qui fait débat dans le monde du foot. L'idée d'organiser une Coupe du Monde tous les 2 ans au lieu de 4, sauf que ses arguments avaient de quoi surprendre.
We cannot say to the rest of the world, give us your money if you have or happen to have a good player by coincidence, give us the player as well. But watch us on TV. We need to include them. We need to find ways to include the entire world, to give hope to Africans so that they don't need to cross the Mediterranean in order to find maybe a better life, but more probably death in the sea. We need to give opportunities and we need to give dignity.
Organiser une Coupe du Monde de foot tous les 2 ans pour donner de l'espoir aux Africains, pour qu'ils n'aient pas besoin de traverser la Méditerranée, de trouver la mort en mer. Entre foot, géopolitique et humanitaire, avec de très 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 gros guillemets, une maladresse, une bêtise, un mélange des genres, en tout cas dénoncé par de nombreuses ONG aujourd'hui.
You know, if FIFA wanted to support underprivileged groups and underrepresented groups through a charitable fund, they would do that. They're a multi-billion pound organisation, and the notion that they're doing it through a World Cup is just bizarre. What's even more bizarre to us, really, is the comments he made about people crossing the Mediterranean to get into other countries, and just shows a complete lack of knowledge of the subject matter he's talking about.
Le président de la FIFA a ensuite tenté de clarifier ses propos, sortis de leur contexte, dit-il, qui visait, selon Gianni Infantino, à inciter les dirigeants du monde à aider les populations de la planète. Pas sûr que ça suffise à éteindre la polémique.
Comment convaincre les antivax ? Le débat relancé hier.
Pareil, on pourrait poser la question tous les jours. Ici même, notre invité, le patron de la PHP, Martin Hirsch, qui posait la question de la gratuité des soins pour les non-vaccinés.
Quand une prévention, un instrument de prévention gratuit est disponible, qu'il peut être utilisé et qu'il est reconnu par la communauté scientifique comme quelque chose qui est utile, est-ce qu'on y renonce sans en porter aucune des conséquences ? Ou est-ce qu'effectivement, on allie le fait qu'on tend la main pour soigner ? Mais on dit qu'il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de conséquences, alors qu'il va y avoir des conséquences sur les autres patients qu'on aura du mal à soigner et qui, eux, n'y peuvent rien.
Martin Hirsch, c'est à vous qui a alimenté le débat du jour, hein, clairement, sur toutes les chaînes info partout. Mais des Américains vont encore plus loin, beaucoup plus loin. Un homme de 31 ans s'est vu refuser une greffe de cœur, rayé de la liste d'attente de transplantation cardiaque parce qu'il n'est pas vacciné. Son père a témoigné à la télévision américaine.
My son is going to the edge of death to stick to his guns. It's kind of against his basic principles. He doesn't really believe. And it's his body. It's his choice. His heart has now deteriorated so much to the point where it won't work on its own.
Sauf que le vaccin contre le Covid fait partie d'une liste de prérequis pour avoir accès à une greffe dans cet hôpital. Le médecin s'en est expliqué.
A cold could kill you. COVID could kill you. The organs are scarce. We're not going to distribute them to someone who has a very poor chance of living when others who are vaccinated have a much better chance post-surgery of surviving.
Rassurez-vous, on n'en est pas du tout là en France encore dans le débat. Ce médecin qui explique tout simplement qu'on ne va pas distribuer des cœurs qui sont rares à des personnes qui se mettent en danger.
Merci beaucoup, Mathieu. C'est devenu la hantise de ses invités. Tous les dimanches sur France 2, dans Les Enfants de la télé, quand Laurent Ruquier ressort des images d'archives oubliées, les fameuses casseroles. Histoire d'en venger quelques-uns ici ce soir, voici une image rare de Laurent Ruquier en duffelcoat. Couleur belette, mèche qui résiste difficilement à un petit coup de vent, passant devant tout le monde pour prendre l'ascenseur à Radio France, à une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître quand Internet n'existait pas et qu'on cherchait des blagues dans le Petit Robert.
6 heures du matin, ce joyeux drille d'une trentaine d'années aiguise ses couteaux, non pas pour les planter dans le dos de ses petits camarades et collègues de radio, mais pour tailler un costard, un vrai, à l'invité qu'il aura le plaisir de recevoir sur le gris de son émission à l'heure de midi.
Moustaki, Georges, nous sommes contents de vous recevoir à nouveau. Vous êtes né, je l'ai déjà dit, en Égypte, à Alexandrie, c'est-à-dire que vous étiez fait pour être poète, puisqu'il vous suffisait de descendre dans la rue pour rencontrer des Alexandrins. Je sais ça, je l'ai déjà dit quand vous êtes venu la dernière
fois. C'était Laurent Ruquier.
Vous êtes toujours sur France Inter.
Merci donc d'être venu nous revoir, Georges. Ravi que nous sommes d'accueillir le grec dont le calme olympien n'a d'égal que sa flemme olympique.
Salut Laurent.
Bon, je suis content de revoir Georges Moustaki.
Ah oui,
très touché parce que, en dehors du fait que je l'ai reçu plusieurs fois dans des émissions, c'était non pas un ami parce que le mot serait un peu fort, mais en tout cas quelqu'un que je fréquentais parfois en dehors des émissions, qui venait à des fêtes ou à des dîners. C'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est un des grands noms de la chanson française, on a parfois tendance à l'oublier.
Donc c'était pas une casserole ça?
Pas du tout, ça m'a fait énormément plaisir de le
revoir. J'ai complètement raté mon coup.
On va en trouver une autre.
J'ai complètement raté mon coup.
Vous mais j'en trouverai pour vous quand vous viendrez.
Ah mais non, mais il n'en est pas question. C'est une hantise de vos invités, des enfants de la télé, sérieusement.
Pas vraiment,
non,
parce que c'est quand même bon enfant. Et puis tout le monde sait ce que chaque invité sait ce qu'il a fait, ce qu'il a derrière comme casserole.
Oui, ah ben, on les a bien en tête.
Voilà, il n'y a pas de grosse surprise, il n'y a pas de choses, il n'y a pas de caméra cachée, vous voyez, c'est des choses
oui,
que...
Oui, c'est pas un piège d'un traquenard. Voilà. Personne n'a essayé de vous soudoyer. S'il te plaît, Laurent, oublie ça, c'est vraiment embarrassant.
Non.
On vous demande de les couper
d'abord,
au montage.
Je vais être très honnête, ce n'est pas moi qui cherche les casseroles des invités. J'ai une équipe chez Endemol, un garçon qui s'appelle Michael Muller, qui est très, très doué pour ça. Et c'est lui et ses équipes qui recherchent toutes les casseroles. Moi, on me les envoie la veille de l'émission, je les visionne, je me marre bien en les regardant. Parce qu'en revanche, je trouve que c'est bien de les avoir vues avant, évidemment, d'en parler aux invités le lendemain. Mais ce n'est pas moi qui fais les recherches, vous imaginez bien.
Ah ben non, mais ça j'imagine bien. Non, mais on pourrait vous soudoyer.
Mais maintenant que je sais que ça vous fait peur, la prochaine fois, parce que j'ai quelques souvenirs de vos casseroles, je demanderai quelques casseroles
mais
spécifiques.
Mais moi, je suis une casserole sur pâte. J'auto-produis des casseroles tous les jours en direct, Laurent.
C'est
trop
ça qu'on
facile.
Vous aime.
Ouais, ouais, tu
mais
parles.
Oui, bien sûr.
Bon, ça, c'est tous les dimanches dans Les Enfants de la télé qui cartonnent. Mais ce soir, on va parler théâtre. Parce que vous avez écrit et vous montez une nouvelle pièce avec certaines de vos grosses têtes qui cartonnent. Parce qu'on voyait des images de Rien à cirer, c'était il y a 30 ans.
Eh oui.
Et ça continue
eh oui,
sur
madame.
RTL.
Eh oui,
tout, du lundi au vendredi, à partir de 15h30, c'est que maintenant c'est un empire, les grosses têtes, ça ne cesse de se rallonger.
Ils font ça à RTL, hein. Julien Courbet, il fait 2h30 le matin. Ils amortissent, voyez, leurs animateurs.
Vous êtes si cher que ça, Laurent.
Je ne sais pas, mais en tout cas, sûrement pas, parce qu'au prorata, je pense que la demi-heure qu'ils nous ont rajoutée à Courbet, et faites bien de me le dire, parce que je vais aller les voir. Je ne pense pas qu'on soit payé pour la demi-heure
augmentée.
En plus, autant augmentée. Oui, oui.
Bon, les grosses têtes avec notamment.
C'est un sujet de conversation, je peux vous le dire, au sein même des grosses têtes.
C'est vrai?
Ah, bah oui, oui. Bah, oui, on leur a fait faire 30 minutes de plus à tous.
Et donc, ils se rebellent.
Bah, c'est normal quand vous travaillez une demi-heure de plus.
Travaillez plus pour gagner plus.
Vous voulez payer une demi-heure de plus.
Les grosses têtes avec notamment autour de vous Valérie Mérès, Stéphane Plaza, Jean-Philippe Janssen qui sont les acteurs de votre nouvelle pièce Un couple magique. On en parle dans un instant. Juste le temps de remercier Bernard Guetta et Clément Derbécourt, économiste au Conseil d'analyse économique. Merci beaucoup à tous les deux de venir ce
soir.
À tout de suite avec Laurent Ruquier, l'auteur de théâtre et ses acteurs. On vous attend.